recherche d'une étincelle pour passer à l'action. Soyez à l'écoute d'Intention Inc. tous les jeudis de midi à 13h.
CIBL 101.5 Montréal.
CIBL, au cœur de la culture.
Bonjour et bienvenue à Traits d'Union sur les ondes de CIBL 101.5. Puis il fait beau. Bon. Allô, équipe!
Bonjour!
Allô!
Il y a une belle grosse équipe, Chassefia. Nikki!
Bonjour!
Ça va?
Ça va et toi, Louise?
Ça va très bien. Ariane!
Allô!
Alexis!
Coucou!
Oui, oui, c'est Alexis.
C'est moi.
Raphaël!
Toujours un plaisir.
Et puis, il a apporté des bulles!
Parce que je pensais que c'était ta fête.
Ben, ça va être la fête du vendredi, congé qu'on mange du chocolat.
Voilà.
Voilà. Et puis, Jean-Nicolas.
C'est ça, c'est moi-même.
Ça va?
Ça va et toi, Louise?
Oh, ça va super bien. Aujourd'hui, ben, on va parler en première demi-heure. On parle de vieillir, mais tu sais, on reste optimiste. On va parler de nos enfants, de ce que ça fait de grandir, d'anticiper des bons et des moins bons moments de nos enfances. En deuxième partie, on va parler plus de vieillir, mais on verra. On y va with the flow. Regarde l'autre qui parle en anglais. De nos découvertes puis de nos appréhensions, ainsi que des solutions pour contrer les côtés inquiétants de cette progression en âge, tu veux dire? En tout cas, pour moi, plus que les jeunes qui m'accompagnent. Avec la présentation d'une initiative sociale avec Adeline Louison, on va parler des alternatives, justement. Ça va être en deuxième partie. À part ça, bien, tout de suite, avec un piquage de l'entrevue du 18 février avec Louis-José Houde à l'émission de L'huile sur le feu.
Tu dis que t'as enfin l'âge que t'as toujours un petit peu eu dans ta tête.
Oui.
Ça, je t'ai taquiné souvent là-dessus, à quel point je trouve que t'es un vieux monsieur.
Oui.
Mais là, t'es comme en phase avec...
Oui!
Oui! Mais pourquoi t'étais pressé de vieillir comme ça?
Pas pressé de vieillir, mais je trouvais déjà que... J'ai toujours une vieille âme, Rebecca. Ah. Malgré mes débuts, mon petit rythme un peu saccadé, ouais. J'ai toujours été un peu grand-papa dans le fond de moi-même, et j'ai toujours été un peu au ralenti. J'aime les choses analogues, puis les ouais. vieux objets, puis les bonnes conversations. écouter le temps d'une paix.
T'aimes ça, vieillir?
Oui. Avant, je sonnais désaccordé. Là, je suis comme en fusion avec mon style.
Pour moi, grandir, c'est le fun parce que tu vas au secondaire, puis tu as plus de responsabilités comparé quand t'es au primaire.
Puis toi, t'aimes ça, les responsabilités?
Oui, j'aime ça, gérer mes propres choses.
Je me souviens, j'avais pas envie, moi, de grandir. J'aurais aimé ça rester une enfant. J'avais pas envie de devenir adolescente. J'étais bien dans mon rôle d'enfant. Après ça, j'ai adoré ça. Prendre plus d'autonomie, plus gérer mes choses, comme dit ma fille. Là, maintenant, je suis plus du côté de « je commence à vieillir ». Ça me dérange pas pour le moment. Parce que je trouve qu'on s'affirme plus, on se connaît plus comme adulte, plus on vieillit.
Moi, j'aime être jeune parce que j'aime pas trop le fait de tout le temps demander ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire. Mais j'aime quand même être jeune parce que je peux faire beaucoup de sport et j'ai pas mal à des jambes.
J'ai hâte d'être comme au secondaire.
Toi aussi!
Parce que j'ai hâte d'avoir plus mes libertés.
Quand est-ce qu'on devient vieux?
Moi, je pense que c'est à 50 ans à peu près parce que je vois les adultes qui commencent à avoir mal au dos et mal aux jambes et ils ont des rides et des cheveux blancs.
Est-ce que aussi on pourrait pas devenir vieux au moment où on a l'impression qu'on est comme vaincu par le temps? Là? Je sais pas, parce qu'en même temps, il y a peut-être pas d'âge vraiment à être vieux. Là. Si on a encore des plans, si on pense qu'on a encore toujours quelque chose en avant qui s'en vient d'intéressant, le point de bascule, peut-être, je sais pas, là, peut-être que c'est au moment où là, on se sent vaincu. J'ai l'impression, moi, que ma mère, elle commence à se sentir vaincue. À 60 ans, ben, je veux dire, dans le sens que À 65, j'ai l'impression qu'elle se sent plus vieille maintenant, soudainement. Là. Fait que si je regarde avec un modèle, j'ai l'impression que là, elle vient, elle, de tomber du côté des personnes plus âgées.
Ben moi, quand on devient vieux, c'est généralement quand on prend notre retraite. Je sais que ça peut être genre, de différents âges, comme il y en a qui peuvent la prendre sa retraite vieille et jeune. Mais j'ai l'impression que s'il y a des gens qui sont à la retraite, je vais les trouver un petit peu plus vieilles.
Tu vieillis et tu t'occupes de ta maison toi-même. Tu deviens avec plus de responsabilités.
Le genre de vie qu'ils mènent à cause... Mais premièrement, tu fais pas de travail.
Je sais pas si toi, tu la connais. Jeannette Bertrand, qui est une dame qui a 98 ans, là, et elle travaille encore. Elle n'est pas nécessairement vieille.
Ouais, mais non, parce que là, ça reste bientôt 100 ans. Comme 100 ans, c'est un gros chiffre. C'est quand même vieux.
Vieillir, pour moi, c'est un signe de liberté. Je vous explique pourquoi. Depuis plus d'un an, je suis à la retraite. J'adore. Je découvre un nouveau monde que je ne connaissais pas. Avec un travail qui a duré pendant 46 ans. J'étais cédulée par des horaires, par des planifications fixes. Et maintenant, je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux. C'est moi qui fais mon horaire. J'accepte des projets, j'en refuse, j'en propose. Je découvre un nouveau monde que je ne connaissais pas. Je n'appréhende pas le futur et je ne vis pas dans le passé. J'ai des beaux souvenirs, je les raconte, mais j'en reste pas là. Et puis, ben, pour ce qui est du futur, ben, on verra que je suis bien entourée. Je m'occupe de ma famille, de mes amis. J'espère bien qu'en retour, j'aurai cette aide lorsque j'en aurai besoin. Puis, j'essaie de cultiver cet amour-là et ce partage que j'ai avec les miens. Je continue quand même à me faire des amis, continue à me faire un cercle, des jeunes, des plus âgés, mais de toutes les catégories. Puis, j'adore ça. Je pense que je suis très sociable. Puis, ça aide beaucoup. À ne pas être seule. Mais les moments où je suis seule, je les apprécie. Alors, je prends soin de moi, je prends soin des autres et je profite de la vie.
Mais il y a des choses qui font peur, par exemple. Au niveau de vieillir, c'est la perte, je trouve, de nos capacités autant physiques qu'intellectuelles, vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est ma crainte par rapport au vieillissement. Mais il y a, c'est très cliché, là, mais le côté rester jeune de cœur, là, ça, j'y crois beaucoup. Je pense que c'est en côtoyant des jeunes, entre autres, en s'intéressant à eux, et tout ça, on reste à l'affût, c'est ça, à jour dans ce qui se passe autour de nous au niveau de société. Puis ça, c'est important, là, de rester jeune de cœur, même si, oui, la décrépitude s'en vient tranquillement. Je pense qu'on a du travail à faire en tant que société pour se trouver des lieux d'hébergement qui vont demeurer stimulants pour tout le monde. Parce que, ben, c'est sûr que si on est juste un paquet de gens en perte cognitive tout ensemble, on se stimulera pas tant que ça. Mais, tu sais, je sais qu'à certains endroits, il y a des initiatives, des CPE qui sont jumelées avec des résidences pour personnes âgées. Ce genre de truc-là, des coopératives d'habitation multigénérationnelles, ça, je pense que ça peut être bien stimulant parce que ben, ça va nous garder vifs plus longtemps. La société, il y a quelque chose à changer par rapport à ça.
Moi, personnellement, là, j'ai 44 ans bientôt. Est-ce que je me sens vieille? Non, parce que j'ai l'impression que dans mon corps puis dans ma tête, je suis comme plus jeune que 44 ans. J'ai pas l'impression que je suis comme sur l'âge que j'ai. Fait que je me sens pas vieille, mais je me sens rattrapée un petit peu finalement quand je regarde les rides, quand je regarde un peu la fatigue, puis quand je regarde aussi le fait que de plus en plus, il y a des professionnels qui sont plus jeunes que moi. Tu sais, dentiste, les gens au garage, toutes les gens qu'on rencontre, qu'avant ça, quand on était jeune, on disait « Mon Dieu, c'est tous des vieux qui s'occupent de moi ». Là, c'est de plus en plus des jeunes qui s'occupent de nous.
À un moment donné, ma sœur a réagi. Elle a dit « Mon Dieu, les joueurs de hockey sont rendus plus jeunes que moi. » Puis ma tante a répliqué, elle a dit « Moi, c'est le pape qui est plus jeune que moi. » Quand ça a été Jean-Paul II.
C'est un état d'esprit aussi. À s'intéresser à ce que les jeunes observent, puis croient, puis vivent. Je me retrouve un petit peu là-dedans. Ça me tient jeune, mais en même temps, je trouve qu'à 49 ans, c'est un bel équilibre. Parce que j'ai encore un peu cette jeunesse-là, je pense. Mais on a un bagage d'expérience.
Ben, moi, je considère qu'on commence à être vieux quand on a des enfants. Parce que j'ai toujours regardé mes parents, j'ai regardé mes oncles, mes tantes. Je trouvais qu'ils étaient vieux, mais pas de manière négative. Ils étaient vieux parce qu'il y avait des enfants. Donc, l'accomplissement d'avoir eu des enfants, pour moi, c'est là qu'on passe le stade, on devient vieux.
Alors, j'ai été jeune longtemps parce que j'ai eu des enfants tard.
Ben merci beaucoup, hein?
Merci. Bye, bye, bye.
Et puis, vous autres, il est ressorti. Je vais faire un résumé de ce qui a été dit. On parle de liberté qu'on a une fois à la retraite. Donc, pour certains, la vieillesse, c'est enfin le temps de faire ce qu'on veut. D'autres, sans lui, l'insouciance de la jeunesse. Les enfants, non. Mais quand ils arrivent là, dans la trentaine, quarantaine, ils ont une nostalgie de l'insouciance de la jeunesse. On parle de point de bascule. Les jeunes pensent qu'aussitôt que tu es à la retraite, tu es un vieux. On parle du travail contraignant qui fait en sorte qu'on se sente mieux, justement, en liberté. On parle de se garder alerte puis de s'intéresser à ce que les jeunes s'intéressent. Ce que je fais, moi, de mon côté, je pense...
Très bien, même.
Ici... t'es gentil, mon Dieu, c'est fin. Merci. Le rassemblement en logis de génération entre elles, c'est pas la solution. Les RPA, ça séduit pas personne. Puis, je me suis posé la question, est-ce que celles et ceux qui ont leurs enfants jeunes vieillissent plus vite que ceux qu'ils ont plus tard?
Bien, hier, c'était la fête du père d'un de mes amis. Puis là, c'est drôle, là. J'étais pas nécessairement invitée à sa fête, mais on a comme tout été dans le même bar. Puis on parlait de ça parce que lui, il a eu ses enfants à 22, 23. Puis là, moi, j'ai 28. Puis je pense un jour avoir des enfants dans genre 5, 10 ans, là, pour pas effrayer une potentielle date, là.
What you see, what you get.
Non, c'est ça. Mais genre dans 5, 10 ans, tu sais. Puis on parlait justement de vieillir puis de comment avoir des enfants, ça nous permet d'être des adultes peut-être plus fonctionnels. Parce que moi, je dis que je suis pas un adulte fonctionnel. Depuis que j'ai comme quitté ma job d'adulte dans un cégep, puis que je fais qu'est-ce que j'aime au quotidien, dans un théâtre, à la radio, en journalisme, mais là, je suis comme... On dirait que vu que j'arrive... En tout cas, c'est drôle à dire, les modalités. Fait, bref, pour revenir à la question des enfants, là, je pense que oui et non. Lui, il disait que non. Il disait que justement, il avait pu permettre d'avoir une meilleure relation avec ses enfants.
Parce qu'il était jeune de cœur.
Parce qu'il était plus jeune de cœur. Puis tu vois, hier, Titi, il y a quoi? Il y a 23, 24. Puis Fred, le papa, avait genre 47. Fait que tu sais, c'est cool, là. Ils étaient dans un bar ensemble, puis ils étaient assis à notre table. Puis ben c'est drôle à dire, mais la différence d'âge entre Fred et moi, ben moi, j'ai des amis qui ont 40 ans, 42. Puis j'ai des amis qui ont fait trentaine. Fait que comme... En tout cas, je trouvais que c'était normal.
Mais je pense que ça doit... Mais c'est parce que je parlais en général ce que j'ai observé. Alexis puis moi, on a 37 ans. Puis je pense que c'est pas si pire. Là,
37
comme,
ans de différence.
OK, je comprenais pas.
Tous les deux.
Tous les deux, c'est ça. Moi, travailler m'a donné une autre expertise. Une autre perspective, oui. Pas d'expertise c'est pour bon, l'instant, sur bon. Le fait d'être parent, mais une autre perspective sur le fait d'être parent, parce que j'ai des collègues qui ont des enfants. Puis tu sais, aux études, il y a les profs qu'on voit un peu de loin, puis tu as tous tes collègues qui ont le même âge que toi, qui ont à peu près la même expérience de vie. Tu rentres dans le milieu du travail, il y a toutes sortes de gens qui finalement brisent plus toutes varié, les a priori que tu avais. Il y a des gens que tu apprends qu'ils ont des enfants, puis tu es comme « Ah, genre! » T'es une personne pétillante et drôle et un peu niaiseuse.
Niaiseux chez nous,
niaiseuse
c'est
dans
bon
le bon sens.
C'est dans le bon sens.
Oui, c'est ça.
Les parents, ils restent des personnes pétillantes, drôles et niaiseuses.
Oui, mais on entend souvent ça dire ces gens-là me gardent jeune. Et ce qui m'interpellait tantôt avec le topo, c'est que j'ai souvent l'impression qu'on associe vieillesse à isolement. Ouais. Parce qu'on s'isole souvent avec notre génération et on s'accompagne. Et j'en parlais avec mon amie Laurence qui est avec nous en studio. Il y a comme des silos qui se font justement à travers ça. Et je pense qu'on a tout à gagner si on veut se sentir et rester jeune, à connecter entre générations.
Absolument.
Et souvent, on entend ça, ils me gardent jeune. Ces jeunes-là me font sentir jeune. Mais je pense que si on se réappropriait ça puis qu'on en faisait quelque chose qui perdure, justement des RPA, mais associé à des garderies, on y retrouve quelque chose de beau à travers ça. Puis je pense qu'on a tout à gagner à rester connecté. Puis peut-être qu'on va vieillir finalement tout le monde ensemble et autrement.
Oui, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a des études qui portent là-dessus. Quand j'étudiais en loisir dans un feu lointain passé...
On le sait.
Du jour de tes 28 ans.
Du jour de mes 28 ans.
Non, je passe nos auditeurs là, ça.
on parlait justement du phénomène intergénérationnel parce que c'est un phénomène qui est très à la mode aussi dans les activités puis dans la manière dont nos sociétés sont construites. Puis en France, ou en Europe, là, mais je pense que c'est en France, il y avait comme un projet pilote où des résidences universitaires, c'était allié avec des RPA, des résidences pour personnes âgées, là, pour dire l'acronyme complet. Puis justement, pour casser l'isolement, mais aussi pour faciliter une meilleure qualité de vie. Parce qu'on va se le dire, quand tu es aux études, c'est vraiment plus difficile. Surtout quand tu es aux études, pas dans ta ville où tes parents vivent, etc., etc. Fait qu'il y a quand même un projet vraiment intéressant là-dedans. Puis moi-même, j'ai vécu avec ma grand-mère 10 ans.
Ah, je pense
ouais. Oui, mais c'est comme ça que je suis arrivée à Verdun. Parce que, en fait, mes parents sont à Val-David. Puis, ben, je voulais faire mes études à Montréal. Puis, au lieu de me prendre un appartement à 100-800 $
Hey, grand-maman.
Grand-maman me dit, ça te tente-tu de vivre avec moi? Puis, je suis comme, OK. Puis, c'est des drôles d'expériences, mais c'est une expérience que je vais chérir toute ma vie. Puis, que si un jour mes enfants peuvent faire avec mes parents, ça serait vraiment cool.
C'est peut-être pour ça que la Wellington, c'est la rue la plus cool au monde. C'est parce que les différentes générations s'y croisent. Oui, je suis vendu Verdun, ça paraît-tu?
Ben,
un tout petit peu.
Puis, ben, là-dessus, justement, comment votre enfance, est-ce que vous vous en ennuyez? Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous êtes nostalgique? Oh, Joey fait dire... Ben, vas-y donc, Joey. Faut qu'il trouve le bouton. Oui, c'est correct.
Il y a, trop, il y a tellement t'attend. De boutons.
Ben, Alexis a été boutonneux, c'est lui aussi.
C'est ton fils, tu sais.
Non, mais c'est... Le boutonneux, c'est celui qui est derrière la console.
Tabarouette.
Non. Il ne trouve pas. Bon, ben, coudonc.
Ben, le... Moi, je voulais être adulte quand j'étais enfant. C'était mon rêve avec mes amis. On jouait que j'avais... On avait 17, 22, 23, 24. Oui! Puis maintenant que je suis adulte, je suis Camille. C'est des drôles de choix. Puis c'est tantôt, j'ai dit, je me considère pas comme une adulte fonctionnelle à proprement dit, parce que je pense que dans ma tête, un adulte fonctionnel, c'est quelqu'un qui arrive à la fin des mois puis qui est comme... Je suis pas genre super pauvre non plus, mais comme, tu sais, qui a une qualité de vie différente que celle d'une personne étudiante, mettons. Puis qui est capable d'atteindre un certain niveau aussi. Puis moi, définitivement, dans cette partie-là, ça ne marche pas. Mais tu sais, je me sens très épanouie au niveau professionnel. Mais en même temps, en culture, il y a des gens de tous les âges. En tout cas, tu sais, c'est particulier.
Puis vous, vos enfants, vas-y, Jean-Nicolas.
Moi, j'avais une question pour toi, Ariane. Quand tu étais enfant et que tu jouais justement à avoir 24 ans, quand tu as eu 24 ans, est-ce que ça y ressemblait au final à comment tu te voyais à ce moment-là ou pas du tout?
Je dirais que ça ressemble, ma vie maintenant ressemble beaucoup plus à celle que je rêvais quand j'étais enfant.
Ouais.
Quand j'avais 22-24 ans, j'étais prise dans des gros trucs, donc c'était une performance. Là, j'étais comme, je vais finir mon bac, je vais être mariée, avoir des enfants, whatever. Thank God, genre, j'ai pas fait ça. Mais je me forçais beaucoup à vivre des choses à 24 ans, de comme, hey, tu deviens un adulte, là. Genre, tu dois rester en couple
la
avec cette personne.
La pression sociale. Des parents, est-ce que les parents donnaient... Non, pas tes parents?
Mes parents sont quand même chill là-dessus. Là. Okay. Mais ma famille, c'est quelque chose, mais mes parents sont chill.
Okay. Alexis, je suis curieuse.
Moi, mon enfance...
Dis à ta mère.
T'as tout ruiné. Non. Mais j'ai pas vraiment de... Je sais pas comment... Tu sais, je regrette pas mon enfance.
J'espère.
Mais
jusque-là,
t'es surveillé.
Jusqu'à maintenant, ça va bien.
Mais c'est drôle parce que moi aussi, quand j'étais enfant, genre, j'étais comme, je vais être un adulte. Là. Je sais pas si tu te souviens, mais comme ta sœur m'avait offert un veston cravate quand j'étais petit. Puis
ben oui.
Là, elle était
puis moi,
découragée.
Choquée.
Mais moi, j'étais comme, yeah, un veston cravate. Tu sais, j'avais comme 8 ans. Mais c'est ça, je voulais être un adulte, mais. Finalement, j'ai quand même eu, tu sais, une enfance le fun et normal.
Ben oui.
Mais je regrette pas parce que quand t'es enfant, je sais pas, je vois tellement le chemin que j'ai fait, puis j'ai beaucoup d'empathie pour l'enfant et l'adolescent que j'ai été, avec toutes les désirs, les anxiétés, les croyances, les naïvetés qu'on peut avoir à ces âges-là qui sont normales, mais je peux pas désirer me projeter. Je peux pas...
OK, ouais.
Genre, j'ai pas envie de retourner là. Mm-hmm. Genre, je le comprends, puis j'ai vécu plein de belles choses. Mais en même temps, je vois tellement de choses maintenant que ça a comme pas de sens de désirer retourner là.
Ouais. Oui. Non, c'est
mais
bon.
Mais pas dans le mauvais sens.
Oui,
mais
oui,
c'est dans le sens... T'as 17 ans.
Louise va réécouter ce soir l'épisode qu'elle va analyser.
Qu'est-ce que j'ai fait, mon Dieu!
Moi, Louise, est-ce que tu rêves de revenir à ton adolescence des fois ou ta vie, ta jeune vingtaine, justement, ou non, t'es vraiment
non,
bien dans ton
Non, mais sens. Je sais que j'ai eu des moments où j'ai réalisé des trucs, puis je me suis dit, et que j'aurais aimé ça, savoir ça à ce moment-là. Tu sais, là, tu sais, un peu comme dans Amélie Poulain, là, qu'il y a quelqu'un dans le sous-sol qui lui glisse la bonne réplique au tata qui vend ses légumes, là. Mais... En tout cas, des fois, j'aurais aimé ça, mais moi, je trouve ça dommage pour vous autres, mais en même temps, Alexis m'a déjà rassuré là-dessus, leur adolescence, votre période, vous l'aimez, mais moi, je trouve que j'étais dans une période vraiment le fun. Grandir dans les années 60-70, là, et que c'était le fun, et que j'ai eu du fun.
Je pense que ça dépend beaucoup des gens aussi, tu sais.
Ouais.
Moi, par exemple, ça sera dans ma chronique, là, mais la vingtaine, c'est pas forcément ma meilleure période, alors que j'ai 20 ans, tu vois, donc c'est bizarre de se projeter.
Oui, c'est ça.
Mais je suis d'accord avec ce que dit Alexis, c'est que chacun son expérience, puis... moi, mon enfance, elle était parfaite. Mais par contre, je ne suis pas d'accord avec toi. J'arrangerai jamais mes erreurs. Parce que si j'avais...
Oh non, ce n'est pas une erreur.
Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que on pourrait mettre moi qui vois ma vie et tous les trucs que j'ai fait. Je serais en mode, il faut que je passe par là pour être qui je suis.
Ouais, tu as raison.
Tu vois, c'est ce que je ferais. J'aimerais que le petit Raphaël me parle aujourd'hui.
Qu'il dise merci.
Inversement. Que d'aller changer mon passé. Mais parfois, aujourd'hui, justement, dans mes élans d'ambition, je me freine. Je suis rarement mon meilleur ami pour ça. Mais d'avoir le petit Raphaël qui avait cette insouciance-là de se permettre de rêver sans aucune limite. Si ce petit Raphaël-là me parlait aujourd'hui puis me dit, mais voyons, vas-y à fond, t'as le droit, t'as enfin les moyens de faire ce que tu voulais faire quand t'étais jeune, ça, je pense que ça changerait tout aujourd'hui. Je suis pas envieux du passé. Je suis plus envieux peut-être de cette insouciance qui me servirait aujourd'hui.
Mais j'ai l'impression que tu t'as déjà parlé, moi.
De temps en temps, je l'écoute, peut-être pas assez.
Mm-hmm.
Je pense qu'il faut que je reconnecte plus souvent avec cette personne-là, mais je pense que c'est un travail qu'on a à faire. Là, je pense que je le fais en ce moment même.
Ouh.
Mais quand je l'ai fait, c'est là que ça a été payant et que ça a été de beaux et grands moments.
Mm. Je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'avec mon psy, on a travaillé là-dessus aussi beaucoup.
On comme est peut-être
la même. Oui, peut-être. J'étais dans Verdun, peut-être. Mais on a travaillé beaucoup là-dessus. Puis il me disait que c'était souvent quelque chose qui arrive avec des personnes qui ont un potentiel élevé quand même, des personnes à haut potentiel. Je ne veux pas nous mettre dans une case à part. Là.
Bon, on va reprendre cette case-là.
C'est ça. Mais qui était comme, on est souvent plus dur envers nous-mêmes, qu'il y a vraiment des défis qui sont pas les mêmes que tous les jours parce qu'il y a une connexion empathique, bref, en tout cas. Puis qu'il faut être empathique envers soi-même aussi, puis pas juste envers les autres. Puis je trouve ça drôle parce que quand on dit ça, ben justement, il y a des gens qui nous disent, comme tu l'as bien dit, mais moi, je pense que tu y parles à ton jeune, mais tu sais, la dureté qu'on a envers nous-mêmes, des fois, elle n'est pas nécessairement représentée parce que c'est pas qu'est-ce qu'on dégage, tu sais. En tout cas, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ce principe-là. Ouais.
Toi, est-ce que le plus jeune... Nikki te parle.
Non, je pense que le Nikki plus jeune est toujours là. Je pense que je suis toujours le bébé adulte.
J'adore.
Ça fait quelques années que j'ai compris des trucs. D'accord, ok, j'avais pas compris. Donc oui, moi j'avais préparé une chronique sur grandir et vieillir. Et quand tu m'as demandé d'ailleurs, Louise, si tu voulais que je parle de grandir ou vieillir, ou les deux, j'ai répondu que j'allais parler des deux. Parce que vieillir, c'est grandir, puis grandir, c'est vieillir. Ça rime en plus. C'est comme ça que marche ma vie depuis bien longtemps, mais je pourrais pas vous dire grand-chose sur le fait d'être vieux, parce que je suis encore très jeune, mais j'ai toujours eu l'impression d'être un vieux papy grincheux coincé dans le corps du jeune adulte de 22 ans
comme Louis-José. Oui.
Exactement. J'ai hâte de vieillir. Moi, je pense que la vieillesse, elle peut m'apporter des trucs. Parce que je commence à en avoir un peu marre des crises existentielles de la vingtaine. Avoir 20 ans, c'est bizarre, parce que tout le monde te dit que c'est les meilleures années de ta vie et que tu dois en profiter autant que tu peux. Mais moi, je comprends pas. Parce que si c'est les vieux qui le disent, c'est que c'est forcément vrai. Mais moi, ma vingtaine, c'est du doute. Je doute constamment. J'ai l'impression de tout savoir dans la vie alors que je ne connais absolument rien. Et je vis constamment une effervescence d'émotions que j'arrive pas forcément à maîtriser puisque c'est le début de ma vie. T'es comme un bébé adulte. Donc, ce que je disais, c'est que tu commences à être confronté à la vraie vie. Et tu te rends compte que les bases, comme par exemple, je sais pas, faire 9 heures de chiffres par semaine et le faire 5 fois par semaine, t'as pas envie de le faire, quoi. C'est pas la vie que j'ai décidé de mener. Puis
comme toi.
Exactement, comme toi.
Comme Ariane.
J'ai l'impression d'être ingrat pour ça, alors que, enfin, tu sais, genre quand je pense à mes parents qui ont un mode de vie très basique. Mais je discutais avec une amie qui me demandait à quel moment de ma vie je serais le plus heureux. Est-ce que c'était pendant mon adolescence? Est-ce que c'était pendant mon enfance? Ou est-ce que ça sera après? Eh bien, je pense que ça sera à 40 ans.
Oh.
Parce qu'à 40 ans, je suis un adulte accompli. À 40 ans, j'ai compris ce que la vie, elle attend de moi.
C'est ce que tu crois.
Exactement. Mais c'est pas mon truc. Mais à 40 ans, j'ai compris que je pense qu'il faut pas autant se prendre la tête dans la vie. J'aurais peut-être une job un peu niaiseuse, un chien. Puis si la calvitie m'épargne, priez pour moi, j'aurai des cheveux. Sûrement en poivre et sel, vu dans quelle direction je me dirige. Mais quand tu commences à vieillir, tu deviens plus sage. Tu vois, t'as beaucoup plus de sagesse. J'irai voir les jeunes pour leur raconter mes histoires. J'irai leur dire.
S'ils veulent l'entendre.
J'irai leur dire, moi, dans mon temps, j'allais à l'université avec des masques. Puis il y avait une pandémie, le monde était confiné, les gens ils allaient dans l'épicerie, ils prenaient le papier toilette. Tu vois, ça sera ça mes histoires. Mais non, je pense que grandir, vieillir, tout le monde le voit d'un côté très négatif, mais pour moi, grandir, c'est beau. La vie, elle serait pas aussi précieuse si j'avais pas la contrainte de malheureusement mourir un jour. Je pense qu'il faut juste accepter sa vieillesse, il faut vraiment l'embrasser. Parce que vous ayez 14, 25 ou 75 ans, on vit tous à un moment donné les mêmes expériences, on les vit juste différemment. Je pense que juste l'adulte, lui, il est déjà passé par là. Alors arrêtez de penser que votre génération est meilleure que celle d'avant. On va tous finir par devenir vieux et grincheux. Essayez juste d'avoir du fun en attendant, je pense.
Ben, Caroline Debine, sous ces belles paroles. Non, on n'est pas prêt encore pour la pause, mais oui, Ariane, là, je te vois.
Mais je trouve que c'est tellement fertile comme sujet, vieillir. Puis en tout cas, tu l'as vraiment bien exprimé. Je trouve que 40 ans, je trouve ça drôle parce que cette semaine, il y a un de mes amis qui m'a dit « Ouais, moi, à 30 ans, je vais arrêter de fumer. » Je suis comme « Pourquoi à 30 ans? » Puis il est comme « Ben, parce que je vais avoir fini ma vie de comme ma vie d'étudiant, puis je vais commencer ma vie d'adulte. » Puis je suis comme « Mais c'est quoi une vie d'adulte? » Puis, tu sais, tu dis bébé adulte, mais moi et ma soeur, on se considère comme des bébés adultes. Puis heureusement, son chum ne l'est pas pour nous, là, parce qu'il faut que quelqu'un fasse nos impôts. Mais genre, tu sais, c'est vraiment particulier. Je trouve qu'il y a des... Puis, je pense que c'est toi qui es le plus éloigné en âge avec moi.
Ouais, j'ai 22 ans.
Ouais, c'est ça, mais c'est pas une si grosse différence, là. Mm-hmm. Mais c'est vraiment intéressant de voir que finalement, ben, c'est quand même des trucs qui sont présents autant chez toi que chez moi, même si on a vécu dans deux modes de vie complètement différents, puis deux époques, mais c'est bizarre, hein, les débuts des années 2000, puis genre la fin des années 90, qu'est-ce qu'on en voit, qu'est-ce qu'on en prend, là. Mais c'est le défi des générations... Z et Y.
Ouais, mais en tout cas, moi, je vois une différence entre les boomers, ma génération, je sais qu'elle vous juge beaucoup par rapport à cette insouciance-là qu'on vous reproche. Non, et pourtant...
Une sorte d'insouciance qu'on vous reproche à vous aussi.
Mais...
Et bim!
Je parle pas de moi, Alexis.
Je sais, je peux pas m'en empêcher. Okay.
C'était le boutonneux, il l'a mal pris.
C'était pas toi.
Mais... En même temps, moi, j'ai goût de dire à ma génération, vous êtes jaloux parce qu'eux font ce que vous auriez eu le goût de faire, mais qu'on vous a empêché. La pression sociale était tellement forte. Une job de 25 ans pour avoir ta montre de 25 ans en même place. Moi, j'ai été élevée et ma gang, on a été élevée avec ça. À 22, 23 ans, une fille était mariée. À 25 ans, elle avait eu au moins son premier enfant. Tu sais, c'était déjà, là, on tout planifié nos vies. Et je pense que la fin des boomers, on était dans les premiers à dire, ben non, moi, ça m'appelle pas, là, ça me ressemble pas, ça.
Mais tu vois, je pense que la jalousie, elle est de votre côté, d'une autre manière, du fait que, justement, nous, on se contente plus de juste travailler 9 heures, 5 fois par semaine. Mm-hmm. Puis juste cette discussion-là avec mes parents, c'est...
Ben c'est ça, c'est de cette jalousie-là que je parle.
C'est ça, exactement. Je pense qu'il y a une double nuance à travers tout ça, puis je pense que c'est intéressant de l'aborder, puis de le faire sans prendre personnel aussi. Parce que je pense qu'il...
Mais c'est ça, notre problème.
Mais même à beaucoup de monde. Côté aussi, c'est pas ça, juste
de tous les côtés.
Il faut arrêter de se comparer.
Oui.
Ouais.
Il faut s'écouter, il faut apprendre l'une de l'autre de nos générations. Puis depuis tantôt, j'ai l'impression que par les termes qu'on choisit, on se compare beaucoup.
Ouais,
les
on
jeunes
manque
versus les adultes.
Hein.
On manque... Mais pourtant, le français est magnifique pour ça.
Oui, je sais, mais je pense que... En tout cas, on va laisser parler nos publicistes pour le moment.
C'est IBL.
J'adore. Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamar FM sur CIBL 101.5 Montréal.
Les 30 Glorieuses, c'est le palmarès indépendant de CIBL, présenté par moi-même, Caroline Boulet, tous les vendredis de 16h30 à 18h et en rediffusion le samedi à 7h30. CIBL 101.5 Montréal.
Depuis plus de 30 ans, le journal mensuel Écho Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. Distribué gratuitement et rejoignant 200 000 lecteurs, Écho Montréal est aussi un véhicule publicitaire polyvalent en répondant efficacement aux besoins de différents annonceurs, comme dans l'immobilier ou tout simplement pour y afficher avis public ou services professionnels.
À lire ce mois-ci dans Écho Montréal. Entrevue exclusive avec Paul Saint-Pierre Plamondon, les gagnants du concours Le français, une langue qu'on aime, un système de corruption syndicale et en édito, une volte-face politicienne.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à echomontréal.com ou à composer le 514-844-2133, 514-844-2133.
De retour à Trade d'Union sur CIBL 101.5, on poursuit avec une des initiatives mises sur pied par l'organisme Présage, et non Présage, Présage, qui est un laboratoire d'innovation sociale sur le vieillissement. On vous présente plutôt un reportage du programme MUR pour entreprendre que présente sa coordonnatrice Adeline Louison et qui est mixé avec un témoignage d'une participante qui s'appelle Sylvie Letourneau.
Bonjour, je m'appelle Adeline Louison. L'une des initiatives mises sur pied par Présage est le programme MUR pour entreprendre que je coordonne. Avec MUR pour entreprendre, nous promouvons l'idée que l'entrepreneuriat peut être une forme émergente et attrayante de participation sociale à la retraite et nous accompagnons les retraités désirant s'engager autrement.
Je suis Sylvie Letourneau. Pour toutes sortes de raisons, l'été dernier, j'ai décidé de quitter pour la retraite. Avec l'idée éventuellement de faire un autre projet, de démarrer d'autres projets. Et j'avoue que j'étais très, très déstabilisée de me retrouver soudainement. J'avais le travail que j'avais à ce moment-là, réalisation de soi, beaucoup de valorisation. Parce que, alors, j'ai commencé à faire des recherches, emploi pour retraités, etc. Et je suis tombée sur le programme là, de
MUR.
MUR pour entreprendre, voilà.
Notre programme consiste aujourd'hui en un parcours d'accompagnement de 10 semaines et un atelier-conférence qui vise à sensibiliser sur l'engagement social à la retraite. Avec une espérance de vie qui s'allonge, un état de santé qui s'améliore et une vitalité grandissante, la période de la retraite occupe une part de notre vie de plus en plus significative puisqu'elle peut s'étendre souvent jusqu'à 30 années. Avec ces changements, on remarque que les aspirations des retraités d'aujourd'hui sont plutôt différentes de celles de leurs prédécesseurs. Suite à ce constat, Présage a amorcé une démarche exploratoire qui a révélé la nécessité d'imaginer de nouvelles formes de participation sociale, mieux adaptées aux besoins et aux réalités des retraités. C'est ainsi que la piste de l'entrepreneuriat social a retenu notre attention, représentant une solution répondant à leur désir d'un engagement qui fait sens et de pallier une éventuelle précarité financière. En effet, l'entrepreneuriat social est une forme d'engagement qui offre la liberté de contribuer à sa communauté, à son rythme et à sa façon, adaptée aux multiples réalités des personnes qui atteignent l'âge de la retraite.
Je savais que j'étais mûre pour démarrer d'autres projets. Entreprendre, là, c'était comme pour moi, je voyais comme toute la notion d'entreprise.
Okay.
Alors, mais je me suis inscrite quand même en courant. J'ai trouvé ça sur Internet. Une heure plus tard, j'étais à la bibliothèque pour m'inscrire. Je voyais qu'il y avait quelque chose d'intéressant pour moi, là.
MUR pour entreprendre offre la possibilité aux participants et aux participantes d'être guidés dans la réflexion et le développement d'un projet qui non seulement a un impact social, mais donne également du sens à leur retraite.
J'avais besoin de rencontrer des gens qui vivaient plus ou moins des situations similaires à la mienne. Et je pense que c'était de briser l'isolement et d'aller chercher des outils de comment on arrive à la retraite. Et au-delà du fait que c'était mûr pour entreprendre et que je n'étais pas nécessairement en train de vouloir démarrer une entreprise, je sentais qu'il y avait une clé pour moi là-bas. Mm. Et de fait, dès la première rencontre, j'étais comme
C'est comme époustouflé de voir tout le potentiel là, tout de suite à la première rencontre. Là.
Nous avons remarqué qu'aucun parcours entrepreneurial n'était destiné spécifiquement à cette clientèle et que très peu les incluaient puisque beaucoup de programmes entrepreneuriaux sont dédiés aux 18-40 ans. Il était donc important pour nous de concevoir un parcours répondant particulièrement à leurs besoins. Il se déroule à un rythme qui laisse place au partage des expériences de chacun et chacune, ce qui favorise la collaboration, le co-développement et contribue à briser l'isolement.
La rencontre entre les humains. À la fin, on a fait un retour sur comment on se sentait le jour 1. Et je me rappelais, tout le monde était comme un peu, qu'est-ce que je fais ici? Qui sont ces gens? Comment je vais m'intégrer dans ce groupe? On était très différents. Le seul dénominateur commun qu'on avait, il n'y avait pas l'aspect professionnel. On était très, très, très diversifié. Alors, comment je vais m'intégrer dans un groupe aussi diversifié de gens que je ne connais pas?
La plupart des gens qui avancent en âge trouvent difficile de créer des relations durables et mûres pour entreprendre. En fait, est vraiment un activateur de liens véritables.
Un élément qui est vraiment le fun, c'est qu'il y a 4 femmes qui faisaient partie du groupe et on a décidé de se voir pour un 5 à 7 assez informel. On est 4 femmes très différentes, avec des parcours de vie très différents, mais là, on en a un maintenant, un dénominateur commun, ce qu'on n'avait pas au début, c'est d'avoir fait partie de ce groupe-là et d'avoir partagé avec le groupe ce qu'on veut faire dans la vie, etc. Et on a eu un partage de comment tu vas et comment tu vas dans ton projet. Au sortir de ce 5 à 7, on s'est dit « oui, on se revoit ». Et alors, les 4, on va se revoir là, probablement en mai. Poursuivre ce partage de comment se développe ton projet, comment est-ce qu'il se transforme. Donc, on maintient la raison pour laquelle on a participé à ce groupe.
Depuis 2019, nous avons accompagné une trentaine d'entrepreneurs d'âge mûr et nos mesures d'impact ont révélé que participer à notre programme leur a permis de se créer un nouveau réseau, d'avoir plus de persévérance, plus de motivation, d'organisation, de gagner en confiance et surtout de démystifier l'entrepreneuriat.
Ce que j'ai aimé beaucoup, c'est alors les outils pour faire la réflexion sur d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait. Je voyais le sens de toute cette activité, là, de tous ces outils de réflexion pour voir un peu qu'est-ce que j'aimerais faire, c'est quoi mes habilités, c'est quoi mes intérêts. Donc, c'est beaucoup ça qui m'a stimulée. Là. Et là, j'arrivais dans le groupe et à nouveau, je pouvais contribuer. Et je voyais aussi que j'étais appréciée par mes pairs et réciproquement, j'appréciais beaucoup la contribution des pairs. Donc, c'était très enrichissant.
Notre prochaine cohorte se tiendra du 10 avril au 12 juin à notre espace de coworking Le Collaboratif qui se situe au 5800 rue Saint-Denis à 2 pas du métro Rosemont. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter par courriel sur info@mûrpourentreprendre.org ou par téléphone au 514-600-4223 poste 211. Merci beaucoup et à bientôt.
Là, moi, j'ai préparé une petite chronique. Fait que je vais vous amener ailleurs, mais après, on peut
c'est
revenir.
C'est pas en lien?
Non.
J'ai pensé que c'était la semaine transport.
Je savais pas que tu m'avais mis juste après Adeline. Fait que je salue d'ailleurs. Bonjour, Adeline.
Qui se connaît?
Oui, je suis comme, ah, allô. Mais là, moi, je vous amène ailleurs parce que, bon, moi, je m'amène tout le temps dans des endroits funky. Quand je m'intéresse à ces questions-là, je me suis demandé, bon, vieillir... c'est-tu juste devenir vieux? Est-ce que c'est pas autre chose? Parce que, puis là, un peu comme tu l'as dit, grandir, c'est vieillir.
Nikki, tu parles?
Oui, c'est moi, vrai, Nikki. Les gens, ils voient pas dans quelle direction je pointe. on vieillit toute notre vie, mais la perception du vieillissement change. Juste le fait qu'on change de mot, justement, l'enfant grandit, même quand, en fait, il arrêtait de grandir puis il est plus grand que ses parents, il grandit. Mais l'adulte qui a au-delà de 18 ans, jusqu'à 25 ans, il vieillit, même si, en fait, son cerveau continue de se développer, son corps continue de se transformer. Mais on dit quand même qu'il vieillit. Tout laisse à penser qu'en grandissant, en fait, on se dirige vers un sommet, comme un endroit où on fleure, on devient une fleur, puis après ça, le reste de la vie, c'est le flétrissement. Puis que ce sommet-là, là, c'est comme quelque part autour de 18 ans. Puis, ben, il y a d'ailleurs des études en Amérique du Nord qui ont demandé à des gens, c'est quand le moment... C'est quoi l'âge que vous aimeriez avoir? Puis en moyenne, l'âge où que les gens répondaient que c'était leur propre âge qu'ils désiraient avoir, genre qu'ils disaient « je suis content de mon âge », c'est 21 ans. Plus jeune que 21 ans, tu veux être plus vieux. Plus
comme
vieux que 21 ans,
tantôt.
Tu veux être plus jeune. Puis ben, c'est comme si socialement, c'était à 21 ans qu'on commençait à vieillir. Alors qu'encore une fois, à 21 ans, notre cerveau n'est pas encore atteint sa pleine maturité, notre corps non plus. Nos cycles hormonaux sont encore en transformation. Puis on va se l'avouer, là, à 21 ans, il y a plein d'affaires qui nous échappent. On est confus, on a des crises existentielles. mais c'est normal parce que c'est ça, vieillir. Fait que définir la vieillesse comme un moment, c'est comme de n'accorder de l'importance qu'à l'éphémère, qu'à, c'est vouer un culte, genre comme, en fait, à une peau morte, comme les cernes dans un verre d'eau plutôt qu'à l'eau elle-même. Fait, avoir peur de la, c'est avoir peur de la mort, mais ne vivre que dans le désir de ce qui vient de mourir. Parce qu'une société, là, je vous envoie dans mes trucs politiques.
Oh, puis philosophique, hein, je trouve.
Dans une société de consommation avancée, l'éphémère, c'est ce qui se vend le mieux. C'est l'expérience d'une joie. C'est des élans de dopamine toutes les deux secondes. C'est un téléphone neuf à chaque année. C'est trois crèmes chaque matin. C'est un cours de yoga pour gérer son anxiété. Un abonnement au gym pour empêcher que tout s'affaisse. C'est toujours plus comme un serpent qui mue, puis qui devient fou, puis qui mue toujours plus vite, puis qui mange sa peau morte... encore humide, c'est retenir la seconde qui vient de passer et se faire charger pour les secondes sauvées. Chaque peau morte qu'on peut empêcher de tomber de notre corps pour pouvoir le garder collé à nous, puis mais se sentir vidé. Vieillir, c'est politique parce que normaliser la vieillesse, arrêter de l'antagoniser, c'est comme prescrire une autre normalité, un autre rythme collectif même, un rythme qui inclut plutôt qu'il met à l'écart. Dans l'étude dont j'ai parlé, celle qui dit qu'à 21 ans, c'est le seul âge où on est content de l'âge qu'on a, ben ça, à 25 ans, on veut avoir 23, à 30 ans, on veut en avoir 25, à 50, on veut avoir 30 ans. Donc, perpétuellement, on est occupé à retenir les secondes passées, mais sans jamais en faire la pleine expérience. Fait que, pourquoi pas retourner à un vieillissement de présence? Genre, je serais curieux de voir ce que ça donnerait d'arrêter de vivre dans la peur.
La présomption.
D'arrêter de vivre dans la performance de ce qu'on s'imagine avoir été ou ce qu'on aurait voulu être et continuer d'être, mais qu'on n'a jamais été. Puis, comment est-ce que ça transformerait nos vies au-delà de notre rapport à nous-mêmes? Mais notre manière d'être ensemble. Parce que d'arrêter d'avoir peur d'être vieux, c'est aussi arrêter d'avoir peur des autres, puis des plus vieux, puis de la vieillesse.
Puis des plus jeunes.
Puis des plus jeunes. Puis de s'écouter, d'essayer de se comprendre, puis d'accepter que peut-être ralentir, c'est correct.
Wow! Oh mon Dieu, là, les gens...
On a applaudissements silencieux.
Hey, on est à radio, là, faut que ça s'entende.
Bravo!
Oh, bravo! Wow.
Je bois mal mes bulles.
Bon, bois tes bulles. Mon Dieu, comment réagissez-vous à ça, les amis?
Tu parles... J'entendais le mot « moment présent », ben les deux mots, tout le long. Comme justement, on en vit le passé, le futur nous fait peur, on pense pas à maintenant, on savoure pas maintenant. On va vieillir de toute façon. C'est un fait, on avance et on est toujours justement en train de penser avant, à penser à demain. Là, je suis pas assez bien aujourd'hui, je vais l'être mieux demain. À 40 ans, ça va être mieux. Tantôt, tu parlais, c'est à 40 ans que ça va se passer. Des gens de 40 ans vont dire que c'est à 60, il y en a d'autres qui vont dire que c'est à 20. On est comme jamais sur ce fameux X d'âge. Mm-hmm. Puis ça me faisait réfléchir et quand tu parlais, j'essaie de comprendre mes propres réactions physiques. Puis c'est vrai que je sens pas cet épanouissement à mes 31 ans, comme je me le souhaiterais, comme je me le souhaitais à 30 ans, je me disais, à 31, je vais être bien mieux qu'à 30. Puis j'étais à 31, c'est pas mieux, fait que je me disais, c'est à 32 que ça va être mieux. Mais j'ai l'impression que plus... Et finalement, je vais me recourber, et c'est là que je vais avoir l'air vieux.
Ouais.
C'est ça que ça me faisait réfléchir. J'ai un haut de cœur quand tu as parlé de la peau morte de serpent, mais à part ça, j'ai tout
aimé. J'ai vu ton regard qui fait...
j'ai réagi. Mais j'ai tout aimé de ce que tu as partagé. Ouais.
Mais moi, je trouve que ça fait écho au concept de comment tu fais pour savoir que tu es en train de vivre ton moment, tes meilleures années. Puisque 21
vrai,
ans, ils sont heureux. Mais moi, par exemple, j'avais 21 ans il y a un an. Je me disais pas, c'est l'année la plus merveilleuse de toute ma vie, tu sais.
Non.
Puis je pense que c'est aussi ça le défi d'essayer de se dire, ben, c'est pas à chaque fois, oh, je vais avoir la meilleure année, comme tu disais là, à 31, à 32, à 33, mm-hmm. mais profiter de ce que tu as sur le moment, ça c'est tellement dur. Je pense qu'il faut faire beaucoup de thérapie.
Ça faudrait, ben, s'il y avait un truc, s'il y avait un cours à donner à quelque part, ben, les enfants, le moment présent, c'est. Mon Dieu, ouais, que ça sent beaucoup aujourd'hui, là.
Tellement.
Mais c'est vraiment ça, je pense. C'est moi, une des premières choses qui a commencé, que mon psy m'a donné comme devoir, là, c'était de faire de la méditation pleine conscience. De prendre conscience du moment qui m'habite, de qu'est-ce que je vis en ce moment, puis de comment mon corps... Là, je parle en termes spirituels un peu, là, mais
bien
comment
sûr.
Mon corps va vivre cette expérience-là, puis va la vivre d'une manière positive. Moi, je tombe tout le temps malade. Genre les gens qui me connaissent. Puis, mon psy m'expliquait que c'est parce que j'étais trop dans une période de stress, puis que justement, les moments de pleine conscience m'aideraient à réduire ce stress, donc mm-hmm. être moins malade. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est nuancé, là. Mais il y a quand même. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait plus assez. Puis, c'est aussi simple que de prendre une minute, s'asseoir, puis se concentrer sur sa respiration. Tu peux le faire dans le métro, tu peux le faire au travail, tu peux le faire dans ta classe, tu peux le faire avant de te coucher le soir, en te levant. C'est aussi simple que ça, puis c'est dur les premières fois, puis à un moment donné, tu veux juste faire ça tout le temps, tu sais. Comme c'est vraiment particulier. Mais je trouve que c'est une des plus belles qualités d'Alexis aussi. Genre, on se connaît pas beaucoup, mais à chaque fois que tu parles, whatever, il y a comme... Tu as une manière de romantiser ton quotidien, tu as une manière de prendre... Puis, tu sais, on se connaît juste d'ici à peu près, là, mais comme... de prendre le temps de vivre chaque moment. Mm. Puis c'est quelque chose qui me surprend toujours puis que j'admire chez toi parce que je pense qu'on le fait pas assez. Mm. Tu sais, quand on est arrivé, il me parlait de lumière dans la colonne. Moi, ça fait 3 ans que je viens à CIBL à toutes les semaines puis j'ai jamais remarqué ces lumières dans la colonne-là, tu sais. En tout cas, c'est des petites affaires comme ça que je suis comme « wow », tu sais. Fait qu'en tout cas, je pense que c'est vraiment important. Puis tu parlais de mots. Je pense que le mot épanouir devrait être peut-être le mot qui devrait plus prendre sur les autres que vieillir ou grandir.
Mais comme la méditation pleine conscience dont tu parles, l'émerveillement, là, ça se travaille. Là. Mm. T'sais, c'est un réflexe à développer. Puis...
Oh mon Dieu, j'ai une image. Je l'ai en vidéo. Je pourrais vous le montrer à la radio, n'est-ce pas?
Attends,
non, Alexis...
J'ai un veto à poser.
Non, il n'y a pas de problème, Alexis. On est en train de démolir la cuisine pour en faire une nouvelle. Puis à un moment... Là, tu es avec une masse, puis tu fais sur le mur, et tout d'un coup, tu arrêtes, tu fais... Ah! Il y a un rayon de soleil. Puis tu sais, la poussière, quand elle monte, là,
ah oui.
Il s'émerveillait devant la poussière dans le rayon de soleil.
Mais faut profiter de la poussière.
J'ai ça en vidéo.
Mais tu vois, c'est ce que tu dis, et en lien avec ce qu'a dit Ariane aussi sur la pleine conscience.
Oui, Jean-Nicolas.
Moi, ce qui... Oui, pardon.
Non, c'est bon, c'est bon.
Moi, je reviens vraiment à ce besoin de ralentir, en fait.
Mm-hmm.
Ça, tout ce que vous avez dit tous les deux, Ariane et Alexis, ça m'a fait penser à mon retour, en fait, d'un séminaire, si on veut, dans un temple bouddhiste où on est dans l'ésotérique, on y va à fond.
Let's go.
Et comme il y avait deux choses qui m'ont vraiment marqué, c'est déjà les marches en pleine conscience. Et en fait, c'était un grand mot quand on ne le connaît pas, mais c'était juste de calquer ta vitesse de marche sur la vitesse naturelle de ton corps. Et en fait, j'ai gardé ça même après. Et je ne sais pas si vous voyez ces effets sur les photos ou dans les films où il y a une personne qui bouge quasiment pas et tous les passants en fait sont complètement flous par la vitesse. J'ai ressenti ça quelques jours après parce que je revenais entre guillemets.
T'avais pas fumé ?
Et j'avais pas fumé. J'étais juste en pleine conscience.
Je m'attendais pas.
Mais c'était vraiment hyper particulier parce que c'était mon quotidien dans lequel j'évoluais. Puis là j'étais mais en fait si on marchait tous juste à la vitesse naturelle parce que des fois c'est un gros mot pleine conscience, les gens prennent peur mais juste à revenir à sa vitesse naturelle, je me dis juste, on aurait plus d'interactions avec les personnes, même sans forcément leur parler. On aurait le temps de remarquer la poussière, le rayon de soleil, mm-hmm. la colonne de lumière. Sauf qu'on est... Évidemment, il y a le téléphone, mais même sans téléphone, on marche. Là, je regarde les gens marcher. Il n'y a comme pas le temps.
J'ai étourdi.
D'admirer tout ça et d'être dans l'émerveillement.
Mais je pense que c'est tellement... Genre, moi aussi, j'ai déjà ressenti ça sans fumer. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut ressentir vraiment.
Ben, pas moi.
Beaucoup de moments.
Ça va venir à 30 ans, t'inquiète. Que...
40, on avait dit 40.
Mais je pense que, justement, moi, quand je passais... Avant, je passais mes étés en camp, dans le bois, loin de la ville. Puis à chaque fois que je venais en ville, je sentais ce décalage-là. Puis dernièrement, j'ai été étudiée à Berlin, comme un bout. Puis quand je suis revenue, j'étais comme, hey, c'est vraiment difficile de reprendre mon quotidien. Puis, tu sais, c'est pas nécessairement que la ville de Berlin est plus calme qu'ici, là.
Non.
Mais le dimanche, je suis fermée, là, en Allemagne. Mm. Là, mais pas juste le dimanche, le samedi aussi, des fois. En tout cas, ça, c'est un autre sujet, là.
En Europe.
C'est ça. De revenir puis de pas être pris dans un contexte de travail pendant comme 4-5 mois où genre il faut que je sois comme partout à toute heure, mon téléphone tout le temps dans ma main, c'était vraiment difficile. Mm-hmm. Puis est-ce que ça a participé à ma décision de quitter le cégep? Oui.
Mm-hmm.
Parce que je me suis rendu compte que je voulais plus ça.
Mm-hmm.
Puis est-ce que c'est pour ça que je reprendrais, ben, j'ai pas repris de job à 40 heures depuis aussi? Mm-hmm. Tu sais? Fait qu'en tout cas, je pense qu'il y a comme vraiment quelque chose d'important dans ce que tu dis de. C'est facile, puis il faut le faire, mais le décrocher. Des fois, il faut comme décrocher notre quotidien pour y revenir, pour comme mieux l'apprécier.
J'aimerais ça vous amener un petit peu ailleurs, parce que, évidemment, la demi-heure s'achève bientôt. Ah. Et puis, je voudrais savoir comment vous entrevoyez, vous autres, votre retraite. Est-ce que vous allez en prendre une? Comme j'ai une amie, elle, qui a dit, moi, tant que je vais être en vie, je vais travailler. Et comment entrevoyez-vous vos logis? Comment vous allez vivre plus tard?
Moi, je reviens genre, à ce que présentait Adeline, puis je trouve que c'est vraiment inspirant parce que... Puis, tu sais, ça fait du lien avec tout ce qu'on a fait. Tu sais, là, on parle de ralentir, puis on... Mm-hmm. On a, les gens pourraient avoir l'impression qu'on s'est écarté du thème de la vieillesse.
Non.
Mais en fait, ça a beaucoup de
sens. En fait, vous avez donné des outils pour la mieux vivre.
Ben, c'est ça, pour mieux vivre, peu importe qu'on soit jeune, vieux et compagnie, mais que mieux grandir à tout âge. Puis, mais ça veut dire aussi... de prendre le temps, après ça, de mieux comprendre les gens qui sont à la retraite puis qui ont un autre rythme de vie. Puis j'ai l'impression que des trucs comme l'entrepreneuriat social, c'est comme une belle manière de comme respecter le rythme de quelqu'un, mais en même temps de valoriser toute son expérience, sa vie, puis de lui dire, genre, t'es encore valide.
Ouais, c'est ça, t'es encore tellement, la validation.
T'as tellement de choses à partager... Ce serait aberrant qu'on fasse rien, qu'on partage pas, qu'on n'échange pas. J'ai envie d'être ambitieux, là, d'être une vieille personne qui continue d'avoir un rôle dans la société. Après ça, qu'on appelle ça de l'entrepreneuriat social ou je sais pas quoi. Mais...
Tu sais, que ce soit pas juste des exceptions. On parle du Barry, on parle de Jeannette Bertrand, on parle... Mais tu sais, c'est quelques noms, mais ça devrait être... Toutes les personnes qui ont une bagage.
Mais c'est des gens qui n'ont pas attendu leur retraite.
Ben, c'est ça.
Moi, il y a quelque chose... Tu me parles de retraite, je ne veux même pas y penser. Non, j'ai l'impression que, de façon technique, en plus, j'en aurai pas de retraite.
Oui, j'en doute.
Donc, c'est un concept qui est à redéfinir pour nos générations, à se dire, ben, peut-être la vivre maintenant, notre retraite, d'équilibrer notre vie, donc par le travail, par notre vie, pour
qu'elle
attendre...
se poursuive jusqu'à la fin.
Exactement, que mon travail soit peut-être plus long que justement dans une période définie de ma vie, et que de voyager, ben, c'est quelque chose que je puisse faire maintenant, mais plus tard également, avec où j'en serai dans ma vie, mais de ne pas attendre. Tellement d'histoires d'horreur de gens attendre ce fameux moment de la retraite, donc c'est mettre une pression sur un moment qui n'existera probablement jamais. Et ça me fait peur.
Avec le coût de la vie qui augmente.
Et c'est un privilège aussi. On parle, tu sais, moi, je suis un privilégié dans la vie pour plein de choses, mais d'être conscient et de pouvoir parler de retraite, ça vient qu'un privilège également. Beaucoup de gens qui ne peuvent même pas se permettre de penser à ça parce que quotidiennement survivent. Et je pense qu'on a un travail collectif et de société à faire pour qu'on ait tous un peu accès à cette retraite maintenant.
Mais il y a plusieurs études qui démontrent en fait que dans les dernières années, les personnes qui sont arrivées à leur retraite ont senti un grand vide lorsqu'elles sont arrivées là. Justement parce qu'ils cherchaient leur validation principale par leur milieu de travail, où ils passaient 40 à 60 heures par semaine. Et là, ils arrivaient, puis il n'y avait plus aucune tâche. Puis c'est drôle que ce projet-là est apparu. Moi, je ne connaissais pas nécessairement lui, mais il y a plein de projets comme ça qui sont nés dans les dernières années, justement pour pallier à ce besoin-là. Mm-hmm. Fait que moi, je pense que c'est vraiment intéressant ce que tu as fait dans l'idée de il faut redéfinir. Puis personnellement, moi, je pense...
L'emploi du temps jusqu'à...
C'est ça. Mm-hmm.
Toute notre vie.
Moi, jusqu'à je pense que fin. Je veux que ma vie soit ce que j'ai actuellement. Partir mm-hmm. en voyage quand j'en ai envie, pouvoir aller dans le Nord quand j'en ai envie, rester en ville quand j'en ai envie, m'impliquer socialement dans des actions militantes qui m'importent, participer à des projets vraiment cool comme cette émission de radio-là, mais avoir mes propres projets à moi aussi. Mm-hmm. Tu sais, je pense que c'est ça que je veux pour moi.
Ça nous garde jeunes d'être ici.
Oui.
Ouais. Mais tu es toujours jeune, voyons.
En parlant de jeunes...
C'est le bâton cure de jeunesse.
En parlant de jeunes, les jeunes, il y en a un plus jeune qui va nous parler de sport.
Oh!
Bonjour, aujourd'hui, je vais vous parler de Shohei Ohtani. C'est le meilleur joueur de baseball en ce moment. C'est un Japonais qui, depuis 5 ans, joue dans la Ligue nationale de baseball aux États-Unis. C'est un joueur aussi bon comme lanceur que comme frappeur, ce qui est très très rare. D'ailleurs, il vient de signer le plus gros contrat de l'histoire de la Ligue nationale de baseball. Par contre, il est au cœur d'un scandale, car son interprète aurait fait des paris sportifs et utilisé l'argent de Shohei Ohtani pour payer ses dettes de jeu. Shohei Ohtani, quand à lui, affirme qu'il s'est fait voler et qu'il n'était pas au courant. C'est une situation très problématique, car aucun joueur de sport professionnel n'a le droit de faire des paris sportifs.
Je te remercie beaucoup pour cette histoire-là, Julien, c'est vraiment intéressant. Merci!
De rien!
Alors, il faut savoir que ce...
Le joueur japonais.
Le joueur japonais joue pour les Angels de Los Angeles maintenant.
Alors, moi, je savais pas que c'était interdit. Pourquoi c'est interdit de faire des paris sportifs?
Ben, il y a une espèce d'éthique sportive qu'ils veulent bien avoir, hein, parce que, bon, on connaît tous les scandales qu'il peut y avoir ici et là.
C'est une affaire genre d'insider trading. Une
ouais, c'est ça, si tu connais les résultats ou ce genre de...
Genre, tu connais, genre, te palper les muscles de tes collègues, là. Fait,
ouais, tu sais que là, il va frapper très fort.
Avec ou sans consentement?
Avec.
Avec consentement.
S'il vous plaît.
Quoi que dans le sport...
Bon, ben, coudonc!
Dans le sport, il n'y a pas beaucoup de... Pardon, ça va. J'ai dénoncé.
Mais moi, je suis curieuse d'entendre Jean-Nicolas et Niki là, sur la question, justement, de comment vous entrevoyez votre retraite.
Ils ont une minute et quart pour le faire.
Ben, moi, ça va aller assez vite. Le déclic, il a été fait par mon prof d'économie quand j'avais peut-être 15 ans en France, où il nous a fait un calcul en nous disant que si tant est qu'elle existera encore, on aurait 70 ans et plus quand on devra l'apprendre. Et c'est en arrivant ici, au Québec, où clairement, bah, j'ai vu que l'argent n'était pas tabou et que c'était correct d'en avoir, disons-le.
Ah ouais?
Ouais. Comme, par rapport à la France, non, j'entends.
C'est ça. Mais par rapport à la France.
Je replace le contexte. Oui. Et en fait, bah, j'ai abandonné cette idée de retraite et j'ai commencé... à épargner de ma propre manière, donc en investissant ou autre, peu importe, mais je me suis enlevé justement ce carcan de la retraite en me disant, ouais, ben, il faut, comme on le disait, un âge sur lequel on met une pression. Mm-hmm. Donc non, moi j'épargne et quand j'ai envie de vivre, je vis.
Désolée, Niki.
Censuré une fois de plus.
Ben oui, censuré une fois de plus.
Mais t'as encore du temps, t'es jeune.
Ouais, c'est vrai. J'ai pas de retraite, moi. J'ai pas d'épargne.
Mais l'émission, elle doit prendre sa retraite pour aujourd'hui. Alors, je vous remercie tout le monde avec d'avoir plaisir, participé plaisir, à cette plaisir. Émission. Merci, toujours, 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 toujours trop courte. N'oubliez pas d'acheter vos papiers, vos cartons, vos billets pour le bingo de CIBL qui a lieu tous les vendredis, on se le rappelle, à 13h.
Tous les dimanches.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Vendredi.
Les vendredis. Les vendredis, ça, c'est très d'union, vendredi.
À 13h, c'est
la girafe en bleuze. Petite, pardon, j'arrête.
Ah, oui, c'est vrai. Pub. Et puis, on vous laisse pour la fin de semaine. Profitez-en, il va faire beau. Puis, ça a l'air que la neige... Non, j'en parlerai pas de la neige la semaine prochaine.
Non, non, pas, neige, pas de neige.
Puis, on nous souhaite un 8 avril sans nuages pour pouvoir la regarder, cette éclipse-là. Parce que nous autres, on ne fera pas l'éclipse scolaire. On va la regarder. Avec nos lunettes en carton.
Ou des boîtes, regardez, il y a des tutoriels sur TikTok.
Ben oui, c'est ça, là. Il n'y a pas de problème. Il n'y en aura pas de problème. Bye-bye tout le monde. Bonne fin de semaine.
Bye-bye.
Vous cherchez une activité originale, ludique et rassembleuse? Venez jouer avec nous au Bingo Radio de CIBL tous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. À gagner 3 500 $ en prix. Pour participer, procurez-vous un livret de cartes de bingo pour moins de 10 $ dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. C'est un rendez-vous les dimanches de 13h à 15h sur les ondes du 101.5 FM. Invitez vos amis. Bonne chance!
Salut, c'est Laurie Vachon. Dans Attache Tatoune, tu vas découvrir les artistes d'aujourd'hui et de demain. Une heure de musique, une heure de découverte. C'est dans Attache Tatoune, jeudi de 13h à 14h et en rediffusion le mardi à 15h.
Salut, ici Philippe Papineau et je suis de retour à la barre de l'émission Francophile sur les ondes de CIBL tous les mercredis de 10h à midi. Francophile, c'est 2 heures de bonne musique francophone, un pied dans le son du moment et l'autre, un peu plus nostalgique, dans les racines de la scène alternative. J'ai très hâte de vous retrouver et de vous accompagner en musique. Francophile, c'est le mercredi de 10h à midi.